Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Être femme selon le cœur de Dieu, c'est la vocation propre à chacune en tant que fille, épouse et mère. Une vocation qui n'est pourtant pas si simple à discerner, tant la place de la femme est définie par rapport à l'homme et au regard de son utilité. Que signifie donc être femme pour l'éternité selon le cœur de Dieu ? Élément de réflexion aujourd'hui dans Vivante Église. Être femme pour l'éternité selon le cœur de Dieu, c'est le propos de Stéphanie de Moulin dans son ouvrage « La meilleure part », être femme selon le cœur de Dieu aux éditions Teki. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes avec nous depuis Radio Notre-Dame à Paris que nous saluons. Vous êtes mariée et mère de 5 garçons. Vous étudiez au Collège des Bernardins. Et puis à mes côtés en plateau à Toulouse, une invitée que les auditeurs de Radio Prudence connaissent bien, Camille de Certaines. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Une fois par mois, vous nous avez familiarisé à l'anthropologie chrétienne et vous nous avez fait réfléchir à la vocation de la femme. Et nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes aussi mariée et mère de famille. Vous terminez un master en théologie du corps. Vous faites votre mémoire cette année, en plus d'études de philosophie. Merci à toutes les deux d'être disponibles aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Stéphanie Moulin. Vous évoquez, au début de votre livre, des conversations avec d'autres femmes. Quel constat avez-vous fait pour vous décider à écrire cet ouvrage ?
Eh bien, je constate que cette question de notre identité, de quelle est notre place dans le monde et notamment la place donnée par les diverses religions, est une vraie question, une question profonde de notre temps. Et ça a été l'élément décisionnaire pour commencer cet ouvrage, parce qu'une amie m'a posé la question et pour y répondre, je voulais y répondre de manière longue, détaillée et j'espère profonde.
Et c'est effectivement le cas de votre ouvrage, une réflexion très profonde sur la vocation de la femme. Camille de Certaines, vous accompagnez avec votre mari des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching pour les lycéennes qui s'appelle Mademoiselle Potentielle. Quelle image les jeunes filles et les couples ont de la femme aujourd'hui ?
Je vois une immense soif de se connaître. Parce que, justement, c'est très brouillé dans le monde, dans la société. Les repères sont brouillés, même le bon sens est parfois brouillé. Et donc, la femme ne sait plus qui elle est. La femme doit se présenter de manière très réactionnaire pour être. Et donc, finalement, on n'est pas dans une belle image, une image positive, enthousiasmante de la femme. Et il y a cette soif là, de découvrir, de redécouvrir qui on est, qui la femme est.
Et en fait, on est plus visiblement dans une démarche d'affirmation que de construction.
Oui, d'opposition même.
D'opposition, c'est ça. Nous nous souvenons du récit de la Genèse qui est consacré à la création de la femme. Adam est plongé dans un profond sommeil et Dieu crée la femme à partir de la chair de l'homme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, Stéphanie Moulin, ce que vous écrivez. Vous dites que la femme est d'abord un vis-à-vis pour Dieu, avant de l'être pour l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Lorsqu'on lit le récit de la Genèse, donc le deuxième récit de la création, on voit que l'homme est seul et souffre de cette solitude et Dieu lui prépare une aide qui lui sera assortie. Et pour cela, il le plonge dans un profond sommeil et de son cœur, il construit la femme et il faut noter que c'est ni de sa tête ni de ses pieds. Donc la femme ne lui est ni supérieure ni inférieure. Elle est vraiment elle sera vraiment son vis-à-vis dans une vraie égalité. Mais quand il présente la femme à l'homme, l'homme est dans le sommeil et la femme est éveillée. Et donc elle vit une relation particulière et unique en tant que femme avec Dieu. Et son premier vis-à-vis, c'est de se recevoir de Dieu.
Et qu'est-ce que ça implique pour la vie de la femme ?
Eh bien,
ce premier vis-à-vis.
En fait, nous avons nous femmes, nous voyons bien que dans les sociétés, la femme a souvent été définie vis-à-vis de l'homme. Elle était d'abord relativement présentée comme la fille de son père, puis la femme de son mari, puis la mère de ses enfants, et non pas en tant que telle. Vous voyez, en tant que femme sans référence à l'homme. Et là, d'un seul coup, on découvre que l'identité profonde de la femme, elle se reçoit de Dieu d'abord, et elle se vit à travers une relation, nos relations humaines, et notamment nos relations à l'homme, donc dans l'altérité qu'a voulu Dieu pour la vie humaine.
Mmh. Ouais. Vous avez, l'année dernière, vous nous avez expliqué, Camille de Certaines, ce que disait ce récit de la Genèse sur la création de l'homme et de la femme. Et c'est vrai que souvent, on voit bien qu'il y a deux notions, l'humilité et la subordination. Est-ce que vous pourriez nous aider à y voir plus clair? Parce qu'on sait bien que Dieu est amour et humilité. Et si on veut vivre de sa vie, il faut évidemment embrasser ces deux vertus, amour et humilité. Alors, expliquez-nous comment on peut faire le tri de tout ça.
Oui. Je rejoins ce que dit Madame de Moulins. En fait, c'est dans son intériorité que la femme va vraiment bien comprendre et recevoir sa dignité de femme, d'épouse, de mère. Et c'est dans son intériorité qu'elle va vraiment découvrir l'égalité de son dignité avec l'homme. Et sa complémentarité et donc cette aide assortie qu'elle est appelée à être mais en effet en étant d'abord une personne aimée, voulue par Dieu et donc il n'y a plus de supériorité ou d'infériorité en fait il y a une égale dignité de créature humaine vis-à-vis de Dieu qui concerne l'homme et la femme et cette complémentarité de dignité dans leur vocation.
Mmh. Comment comprendre, Stéphanie de Moulins, cette phrase de la Genèse, « Ton désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi ». Donc ça, c'est une conséquence du péché originel. Et cette domination, comment vous la comprenez, vous ?
En fait, après la désunion avec Dieu, après la mise à l'écart de Dieu, la perte de la grâce, on voit que un déséquilibre s'établit dans la relation homme-femme et notamment on découvre que l'homme quand il regarde sa femme devant Dieu il va l'accuser, il va lui dire c'est à cause d'elle, c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait que j'ai mangé du fruit défendu et donc il entre dans une manière de dominer et la femme qui a perdu la relation intime avec Dieu dont elle reçoit la dignité. Eh bien, elle va être attirée par cet homme pour retrouver son identité et sa dignité. Et au lieu de la recevoir de Dieu, elle va désirer recevoir cette égalité de dignité auprès de celui qui la domine et qui cherche à la dominer.
Mmh. Et pourtant, il y a quand même une faiblesse physique qui fait que la femme peut être subordonnée parce qu'elle a besoin de la force de l'homme.
Oui, mais la faiblesse physique, la femme est aussi très endurante en réalité. Vous voyez, elle est capable de supporter dans la longueur ce que l'homme va supporter dans la vigueur de l'action. Et puis la faiblesse physique, elle invite plutôt à la protection et au respect qu'à la domination et l'écrasement. En fait, tout est une affaire de positionnement intérieur et de respect de l'autre.
Oui. Vous écrivez dans votre livre qu'il faut reconnaître que cette chute originale et que les structures de péché abîment la réalité de l'image de Dieu imprimée en chacun de nous et particulièrement celle de l'humilité logée au corps de la femme.
Oui, on voit bien que la vertu d'humilité, c'est une vertu religieuse. C'est se mettre devant Dieu et se recevoir de Dieu et découvrir que Dieu est le centre. Et nous, dans notre chair de femme, on sait bien qu'on peut accueillir en nous une vie qui devient notre centre et notre propre vie se décentre. Et il y a quelque chose dans notre chair qui est capable de comprendre par la chair, par la matière, par ce que l'on est, combien il est nécessaire de se décentrer de soi pour recevoir Dieu et le mettre au centre. Et c'est notre force, en réalité. C'est une immense force spirituelle que de le vivre dans notre chair et de le comprendre que Dieu vient pour être le cœur de nos vies et nous permettre de vivre et d'être dans la plénitude de notre dignité humaine.
Mmh. Camille, de certaines, vous voulez ajouter quelque chose sur cette dimension de l'humilité ?
Oui, c'est le chemin chrétien de l'incarnation. Voilà, accepter notre être de femme avec, vous l'avez dit, sa faiblesse peut-être en apparence physiologique, mais qui est le terreau d'une immense force spirituelle, d'une immense richesse spirituelle, d'une immense fécondité même. Et voilà, si on accepte cette vulnérabilité de notre être de femme, eh bien, on peut porter du fruit. Donc l'humilité, c'est le chemin pour être, en fait.
Et alors, qui mieux que la Vierge Marie est le modèle même de l'humilité?
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos?
La Vierge Marie, elle s'est reçue totalement de son Créateur, en fait. Et c'est en ce sens-là que c'est la Vierge Marie. Elle est toute dans son fiat, dans son oui, dans l'accueil de la parole, dans l'accueil du Christ en elle. Et donc c'est le modèle pour les femmes pour dire aussi notre oui, pour accueillir le Christ en nous, pour le laisser vivre en nous.
Voilà, un modèle, un modèle en tout cas qui à suivre. Stéphanie Moulin, vous écrivez dans votre ouvrage « La primauté sur son cœur paternel que Marie reçoit dans l'humilité, Dieu l'offre à chaque femme de manière unique et personnelle ».
Oui, d'abord je voulais ajouter que l'humilité, elle est au cœur de la Trinité. Il y a entre les personnes divines une relation d'amour, mais l'amour n'est pas sans humilité. Donc Dieu est charité, mais Dieu est humilité. Et donc pénétrer dans le cœur de Dieu et se recevoir de Dieu, c'est embrasser et notre capacité à aimer, enfin l'amour de Dieu et le mettre en œuvre, mais aussi l'humilité de Dieu. Et ça, c'est pour hommes et femmes. Et de fait, la femme, elle en a le pressentiment et sans doute par sa fragilité physiologique, comme vous le disiez, Camille, eh bien, en fait, elle le comprend de manière assez immédiate.
Elle a une prédisposition à l'humilité, en fait, la femme.
Je pense, oui. Mmh. Parce qu'elle a une capacité au décentrement et une compréhension de la fragilité de la vie humaine qui a tant besoin de soins qu'elle entre dans ce mystère de l'humilité par la vie.
Oui, oui, c'est ça. Et finalement, si on conclut cette première petite partie sur la femme fille du Père, qu'est-ce que vous diriez, Stéphanie de Moulin, sur cette signification, par quoi ça passe de se reconnaître fille du Père?
C'est vraiment un changement de positionnement intérieur. Réaliser que notre relation à Dieu est une relation filiale, pas une relation de servitude, eh bien, ça transforme notre manière d'être. Parce que si nous sommes filles de Dieu, nous sommes toutes des princesses. Vous voyez, nous sommes... D'ailleurs, le mystère de l'incarnation, il a d'abord été confié à des femmes. Il a été confié à Marie, qui a été élevée ensuite au titre de reine du ciel et couronnée. Et il a été confié après à Élisabeth. Ça reste d'abord un mystère de femme. Il est d'abord reçu par les femmes. Et donc, se recevoir comme fille du Père, c'est accéder à une dignité inouïe. Car le Père est Dieu.
Mmh. Oui. J'aimerais bien qu'on parle de cette aide dont vous avez parlé, Camille Certaine, au début de cette émission. Cette phrase de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Voilà ce que dit Dieu avant de procéder à la création de la femme. De quelle aide s'agit-il, Camille?
L'aide dans la Genèse, là, c'est vraiment cette ézère, cette aide assortie. C'est la femme qui va... être une aide dans l'humanisation de l'homme, en fait. Elle est vraiment dans une complémentarité de dignité et un appui pour l'homme. La femme, c'est celle qui va s'offrir pour que l'homme devienne pleinement homme. L'homme, il va être une aide pour la femme dans le sens de la protection, de la force, voilà. Et la femme, elle est, parce qu'elle a un cœur de femme, elle est celle qui aide l'homme et l'humanité à devenir pleinement elle-même. Donc son rôle est absolument essentiel.
Mmh. Et vous disiez, Stéphanie Moulin, que la femme avait appris à se décentrer grâce à la maternité. Qu'est-ce que ce décentrement peut apporter comme aide à l'homme?
En réalité, je dirais surtout que l'aide qui est donnée à l'homme, c'est une aide spirituelle. Le but, c'est pas de lui apporter quelqu'un qui va lui faire la cuisine et ranger ses chaussettes. C'est vraiment le but, c'est le ciel. Le début de la Genèse, c'est l'ouverture de la création à la vie éternelle. Et donc cette aide est spirituelle. Et donc c'est en vue de la vie éternelle que nous sommes face à face, hommes et femmes, donnés dans une altérité que nous avons à découvrir et à aimer, et ça nous prépare à la grande altérité du tout autre, qui sera celle du oui à Dieu dans la vie éternelle. Et c'est en cela que, entrant dans le mystère de l'humilité de Dieu, entrant la première, sans doute, et recevant la première ce mystère, en fait, on permet à l'homme de découvrir que le ciel, pour lui, sera aussi un mystère de charité et d'humilité.
Mmh. Et puis dans cette expérience de la maternité, la femme ressent dans ses entrailles qu'elle décroît pour que l'autre grandisse, comme disait Jean-Baptiste. Ça aussi, ça peut être un modèle aussi pour l'homme.
C'est un modèle pour l'homme parce que dans le récit évangélique, il s'agit de Jean-Baptiste. Quand le Seigneur parle du ciel, il en parle souvent en évoquant les noces. Et dans les noces, il y a deux figures. Il y a celle de l'épousé, l'épouse qui vient vers l'époux, et puis à l'ami de l'époux. Et nous, femmes, nous comprenons dans notre chair que Dieu veut nous épouser quand on regarde le Christ, quand on le regarde dans son incarnation. On comprend que de manière spirituelle, ces épousailles seront célestes. Et
qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que j'imagine que toutes les femmes ne peuvent pas forcément ressentir et comprendre cette notion d'épousailles.
Je pense que toutes les femmes comprennent que Dieu veut épouser leur âme. Et je pense que c'est parce que le Christ est homme qu'on le comprend profondément, en fait. Il ne s'agit pas d'épousailles de la terre, mais d'une union mystique. Vous voyez, c'est une analogie. Donc nos noces à nous ne sont que la préparation et une image une image terrestre, un amour de créature pour nous préparer à l'amour de Dieu pour notre âme.
Vous avez dit, Stéphanie Le Moulin, que l'union sponsale, le mariage était une préparation au ciel, et qu'amie de certaines, c'est entre guillemets le sujet de votre mémoire de cette année. J'aimerais bien que vous fassiez le lien entre ces deux noces.
Il me semble que nos noces terrestres sont un chemin pour nous préparer justement à nos noces célestes. Toute baptisée, en fait, est vraiment appelée à être épousée par le Christ. Et je rejoins Stéphanie Moulin, je pense particulièrement la femme, elle vit ça dans son être, elle le sent particulièrement dans son être. Et donc vivre nos noces terrestres comme un chemin pour être toujours plus épouse du Christ dans notre âme, évidemment. C'est une analogie, on est bien d'accord. Mais elle est essentielle. Et à la fois, notre vie d'âme épouse du Christ vient nourrir nos noces de la terre. Elle vient les remettre à sa place. Elle vient nous apprendre à aimer notre époux de la terre. Plus j'aime mon époux de la terre, plus je vais aimer le Christ. Et plus j'aime le Christ, plus le Christ va m'apprendre à être une bonne épouse, à bien aimer mon époux de la terre.
Stéphanie Le Moulin, vous voulez compléter ce qu'a dit Camille de Certaines à l'instant.
Oui, quand on regarde Joseph et Saint Joseph et Marie, on découvre que Saint Joseph, qui est l'homme juste dans les évangiles, il reçoit Marie en la regardant ayant une relation unique avec Dieu. Et donc il conçoit qu'il est le petit époux devant celle dont le grand époux est le Seigneur. Et il y a là un chemin pour vivre un mariage chrétien qui est très important. Et je voudrais dire que dans l'amour, je pense que c'est un merveilleux moyen que les noces de la terre qu'a inventé le Seigneur pour nous mener au ciel. Parce que dans l'amour conjugal, en fait, on trouve les trois dimensions de l'amour. À la fois, on est dans le vis-à-vis, dans l'égalité, dans le face-à-face, dans le cœur à cœur avec notre, notre mari. Et cela nous prépare au cœur à cœur avec Dieu. Mais on est aussi au service de l'autre. On se met au service de l'autre parce que l'amour est service. Et là, on est dans une relation filiale. On est au service de celui qu'on regarde et parce qu'on l'aime, on veut le mettre au-dessus de soi. Et en même temps, dans le même mouvement, on est responsable de sa croissance spirituelle et on exerce une forme de maternité spirituelle, vous voyez ? Mmh. Et on a les trois dimensions qui sont présentes dans l'amour conjugal et qui nous prépare au cœur avec Dieu, cet amour sponsal qui nous donne de partager, dans lequel il nous laisse exercer ces trois dimensions de l'amour.
Mmh. Je vous propose qu'on poursuive après la pause musicale sur cette vocation de la femme épouse. Camille de Certaines et Stéphanie Moulin, nous allons voir après quelle est la vocation de la femme comme épouse et puis après comme mère. Nous écoutons un extrait des Vêpres pour l'Assomption de la Vierge Marie.
Église, Isabelle Duché.
Être femme selon le cœur de Dieu, c'est le sujet de l'émission Vivante Église aujourd'hui. Nous sommes avec Stéphanie de Moulin, auteure de La meilleure part, Être femme selon le cœur de Dieu aux éditions Teki. Également avec nous Camille de Certaines, vous êtes toutes deux mariées, mères de famille. Vous nous faites réfléchir aujourd'hui sur la vocation de la femme en tant que fille, épouse et mère. Nous avons vu donc dans cette première partie comment la femme était fille. Nous avons un petit peu commencé à parler de la femme épouse. Et j'aimerais bien reprendre avec vous cette discussion. Stéphanie Moulin, puisque la femme, en aimant Dieu, donne à l'homme l'exemple de l'amour sponsal. Elle apprend à l'homme comment aimer Dieu et son prochain. Comment elle s'y prend finalement ?
En fait, elle montre à l'homme que Dieu n'est pas seulement un ami, mais il est vraiment celui qui veut épouser son âme. Dans la figure des noces, qui est l'analogie qui permet de contempler notre vie au ciel, je disais qu'il y avait deux figures, l'épouse et l'ami de l'époux. Mmh. Et naturellement, la femme s'identifie à l'épouse. Et naturellement, l'homme se sent l'ami de l'époux. Vous voyez, celui qui donne ses mains, qui agit pour lui, qui est vraiment l'ami de celui qui vient épouser l'âme. Et en réalité, il découvre dans le vis-à-vis de la femme, il découvre dans sa propre vocation au mariage, il découvre petit à petit que lui aussi est appelé à vivre une union sponsale avec Dieu. C'est pour ça qu'il s'écrit « Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair ». Il découvre cette vocation à une union de cœur à cœur. Et l'union qu'il va vivre avec sa femme, eh bien, en fait, elle, la préparation et le signe pour le monde de l'union de l'âme à Dieu qui est pour tous.
Elle préfigure, en fait, cette union. Je voudrais qu'on reprenne ces mots de Jean-Paul II quand il était à Lourdes le 15 août 2004. Il a lancé cette exhortation. « À vous, les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. » Comment comprenez-vous cette expression, Camille de Certaines ?
La femme a vraiment un sens du mystère de la vie. Elle est particulièrement reliée au sanctuaire de l'invisible qui est son âme. La femme, elle est vraiment d'abord intérieure. Donc elle est gardienne de cette intériorité. Elle est reliée à son cœur. Elle est voilà, plus dans l'écoute. Et parce qu'elle est reliée à son cœur, parce qu'elle est reliée à son intériorité, eh bien, elle est gardienne de la dignité de la personne. C'est dans ce sens-là qu'elle est sentinelle de l'invisible, parce que ça ne se voit pas. En tout cas, ça se voit avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur. Et la femme, elle a vraiment cette capacité, dont Edichstein a beaucoup parlé, hein, voilà, cette capacité à rentrer dans son intériorité, dans une vie d'intériorité avec Dieu, et à percevoir le mystère de la personne dans l'autre. C'est dans ce sens-là qu'elle est vraiment sentinelle de l'invisible.
Oui. Un mot à ajouter, Stéphanie Moulin, sur cette formule, la femme oui. Sentinelle de l'invisible.
Ben, la sentinelle, elle est envoyée en avant. La sentinelle, elle est placée en avant pour être la première à voir le mystère qui est donné. Et elle a cette primauté, puisqu'elle est placée en avant, et on le voit partout dans l'Évangile, les femmes sont les sentinelles de la vie du Christ. Elles l'introduisent à toutes les étapes de son ministère, jusqu'à la croix, depuis Marie, où qui la reçoit, à Marie-Madeleine au tombeau.
Oui.
Mais elle est sentinelle en vue d'autrui, et en vue de ceux qui l'entourent, en vue des hommes. Et donc, elle est aussi celle qui annonce. C'est pas pour rien que Marie-Madeleine reçoit le titre d'apôtre des apôtres. Parce qu'en fait, recevant en premier le mystère de la résurrection, à cause de cet amour de femme qu'elle avait pour son rabouni, eh bien en fait, elle court, elle est envoyée pour courir l'annoncer à ses frères. Et donc on est sentinelle de l'invisible qui se donne et qui se donne en nous transformant, pour pouvoir en témoigner auprès de ceux qui nous sont confiés.
Oui, ce n'est pas un secret à garder pour soi, en tout cas.
Ce n'est pas une sentinelle invisible, c'est la sentinelle de l'invisible. Oui, le guetteur, il est envoyé en vue d'autrui, en vue de l'annonce.
Oui, c'est ça. Et vous parlez, Stéphanie Moulin, de toutes ces rencontres de Jésus avec des femmes. Il y a celle avec Marthe et Marie qui nous permet de réfléchir à ce qu'est la meilleure part, puisque Jésus dit à Marie, tu as choisi la meilleure part, elle ne te sera pas enlevée. Vous écrivez que la femme à la meilleure part, mais qu'elle ne le sait pas. Là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça.
La femme a la meilleure part, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ, parce que ces mots qui sortent de sa bouche, ils jaillissent dans une conversation entre lui et deux femmes. Et il montre à l'une quelle est la meilleure part. Et la meilleure part, c'est de savoir se mettre à genoux et se recevoir de Dieu. C'est participer, recevoir, être nourri, être guéri, être transfiguré par l'amour de Dieu que nous recevons en nous, par l'écoute de sa parole, par la fréquentation de l'Eucharistie régulière. Voilà. Se laisser transformer, imprégné de Dieu pour pouvoir ensuite en vivre. Mmh. Telle est la meilleure part. Et c'est vrai que nous avons aussi un chemin à parcourir pour le découvrir. D'abord, nous avons à le découvrir. Le péché originel nous a privés d'une certaine manière de la grâce, et puis restaurés par le baptême, nous avons à entrer dans ce compagnonnage pour découvrir que la meilleure part se reçoit de Dieu. Voilà, nous avons à le vivre. Et puis nous avons aussi à nous détacher de visions peut-être archaïques, archaïsantes, qui viennent parasiter toujours nos vies, qui est de vouloir comparer notre place, notre part à celle de l'homme. En fait, la meilleure part, elle se reçoit de Dieu. Mmh. Elle se reçoit auprès du Seigneur.
Mmh. Et vous expliquez que, en fait, c'est un engagement à recevoir cette meilleure part. Voilà, il faut mettre en ordre sa vie. Concrètement, Camille de Certaine, comment peuvent faire les femmes pour mettre en ordre leur vie et justement avoir accès à cette meilleure part? Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, au quotidien?
Je pense que voilà, l'important, c'est de cultiver son intériorité et donc donner toute sa place à la prière, à l'Eucharistie, à la confession. Et c'est en donnant cette meilleure part de notre vie, en acceptant, en accueillant cette meilleure part de notre vie, qu'alors notre vie va pouvoir s'unifier. Parce que c'est dans notre relation à Dieu que nous allons apprendre à l'aimer, à nous aimer, à aimer notre époux, nos enfants, le monde, à être prophète. Et donc c'est seulement en unifiant concrètement notre vie, voilà, en donnant vraiment une place à notre intériorité, qu'alors tout le reste va en découler, en fait. Accepter de faire découler toute notre vie de notre relation à Dieu, et donc lui donner du temps, lui donner une place, et donc concrètement le mettre dans son agenda, par exemple.
Eh oui, c'est ça.
Et après, le reste va s'ordonner, en fait, même naturellement, ou du coup, peut-être surnaturellement, parce que c'est la grâce qui pourra travailler en nous. Voilà.
Dans la dimension de la femme, il y a évidemment sa fécondité, il y a une fécondité charnelle, une fécondité spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Stéphanie Moulin, comment vous distinguez les deux?
En réalité, on voit que la plupart des civilisations ont un petit peu voulu enfermer la femme dans la fécondité charnelle. Mm. Par souci de faire perdurer leur propre vie interne de groupe. Et puis c'est aussi une manière de la contrôler. Mais en réalité, notre vie charnelle, notre vie de créature, elle est une expression de notre fécondité profonde, qui est une fécondité spirituelle. Et donc on est tous appelés à vivre une maternité spirituelle. D'ailleurs, il n'y a pas de maternité charnelle qui ne soit pas spirituelle. Mmh. Si on élève nos enfants comme des petits chiens, ils ne vont jamais grandir. Ils ne vont jamais être équilibrés. Ils vont être fracassés par la vie. Il faut bien leur donner plus qu'une dimension charnelle.
Naturelle, oui.
Naturelle, matérielle. Pour qu'ils deviennent des hommes. Mmh. Donc on a besoin de prendre conscience que quel que soit notre état de vie, qu'on soit célibataire, marié, consacré, ou enfin, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, on exerce par notre être, par notre témoignage, une maternité qui est d'abord spirituelle. C'est elle qui élève, c'est elle qui fait grandir, qui donne à l'autre sa dignité.
Oui, c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Camille Le Certaine, sur cette fécondité?
Oui, je suis tout à fait d'accord, et surtout je trouve que ça déploie notre être de femme, en fait. Et ça ne réduit pas la femme à un seul aspect matériel, charnel. Et c'est aussi très consolant pour toutes les femmes qui ne sont pas mères.
Ah oui, c'est vrai.
Elles sont pleinement femmes parce que la femme exerce d'abord une maternité spirituelle. Et c'est toute la beauté de notre vocation, en fait, qui est à découvrir parce qu'elle est invisible. Elle ne se compte pas au nombre d'enfants, mais justement, elle est bien plus immense parce que le nombre de nos enfants spirituels est immense. Voilà, l'écriture nous dit « déploie l'espace de ta tente ». Eh bien, je pense que la femme est appelée à avoir une maternité spirituelle très large, qui va nous faire mal parce qu'elle va ouvrir notre cœur, elle va nous obliger à nous déployer, mais le Seigneur permet que ça porte des fruits qui sont bons.
Mmh. Oui, vous employez ces termes, Stéphanie de Moulin, dans votre terme. La femme, elle a une fécondité de l'action, une fécondité du travail, une fécondité artistique, une fécondité relationnelle, une fécondité amicale, etc. Et une fécondité spirituelle. Elle fait partie intégrante de la vocation de l'homme avec un grand H. Cette fécondité.
Oui, et puis de même que la femme se reçoit fille du père, l'homme se reçoit fils du père. Mmh. Voilà. De même que la femme reçoit Dieu et est unie en lui dans une relation de face à face, parce que le Christ vient et s'abaisse pour nous regarder en face à face, de même l'homme devient l'ami de Christ. Eh bien, notre maternité spirituelle, elle est réelle parce qu'en tant que femme, nous exerçons notre fécondité toujours de manière féminine. Donc c'est une forme de maternité quand elle porte des fruits. De même, en face de nous, l'homme, il exerce sa fécondité comme une paternité. Et toute paternité procède de la paternité du père. Vous voyez ? Et donc, c'est important aussi de comprendre que la maternité spirituelle, il est nécessaire qu'elle soit visible et d'une certaine manière qu'elle soit reconnue, parce que un homme est père quand une femme devient mère. Mmh, il lui remet l'enfant dans ses bras. Mmh. Donc nier la maternité spirituelle, c'est amputer la paternité.
Oui, c'est en fait la maternité spirituelle nourrit
la paternité
et précède
spirituelle.
La paternité spirituelle.
Et les deux sont absolument nécessaires. On voit bien que d'une manière naturelle, dans une famille, il est nécessaire d'avoir un amour maternel et un amour paternel. Mmh. Et que quand l'un ou l'autre est trop abîmé, parce que toutes nos manières d'être sont toujours un petit peu abîmées par le péché, mais quand c'est trop abîmé, eh ben les enfants en subissent des conséquences graves.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il faut se recevoir l'un de l'autre et être capable, pour la femme en regardant l'homme et pour l'homme en regardant la femme, de recevoir ce cadeau qu'est la maternité et la paternité comme le tremplin de son propre développement, du développement de sa propre fécondité.
Mmh. Oui, c'est ça. Et une fécondité mutuelle, en fait. Hein, qui,
exactement.
Chacune nourrit celle de l'autre. J'aimerais que nous terminions cette émission par la dimension prophétique de la femme. On lit dans la parole de Dieu combien les femmes ont un rôle important dans l'annonce de l'évangile. Et vous avez mentionné la Vierge Marie, Marie-Madeleine. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette dimension prophétique ?
Eh bien, ce cœur à cœur avec Dieu qui est premier et qui est invité à être premier, affine nos âmes de femmes et nous rend prophètes de la réalité d'en haut, dans ce monde. Et on le voit dans l'Évangile. Marie par sa, c'est à la fois par sa pureté et par sa féminité, peut recevoir infiniment Dieu au point qu'il prenne chair. Et nous, on est appelés à recevoir infiniment Dieu au point de le faire naître au monde. Vous voyez à l'image de Marie. Mais c'est aussi Élisabeth qui reçoit dans la foi le mystère de l'incarnation qui grandit au ventre de sa cousine. Ce sera aussi la Cananéenne qui va manifester combien le mystère de Jésus, qui est d'annoncer aux Juifs la bonne nouvelle, peut s'étendre aux païens. C'est Marie qui vient oindre la tête de Jésus en vue de son ensevelissement. C'est les saintes femmes au tombeau qui viennent caresser une dernière fois le corps de leur maître pour lui prodiguer les derniers soins qui sont témoins de la résurrection. Et dans l'Évangile, on voit combien les femmes sont toujours placées de manière unique à ces moments charnières qui sont des basculements et dont elles deviennent les prophètes. Mmh. Et nous avons à prendre la mesure de notre vocation à devenir les prophètes de Dieu dans le monde.
Un dernier mot, Camille, pour conclure.
Oui, si la femme se laisse saisir par Dieu, voilà, à le cœur d'épouse qui est saisie par son époux, alors, avec une immense audace, comme toutes ces femmes dont vous avez parlé, dont vous venez de parler, eh bien, alors elle va vouloir répandre ce feu dans le monde, parce qu'elle-même, voilà, elle-même s'est laissée saisir, et alors elle n'a qu'un désir, c'est de témoigner.
Pour conclure, je reprendrai les mots que vous avez écrits à la fin de votre ouvrage, Stéphanie Moulin, que vous adressez à toute femme, quel que soit son état de vie. Toutes nous sommes appelées à nous recevoir filles du Père. Toutes nous sommes appelées à nous laisser épouser par l'Esprit et à adhérer de tout notre cœur de femme à l'amour de Dieu pour nous. Toutes nous sommes appelées à déployer notre grâce propre de femme à travers notre maternité spirituelle et à faire naître l'amour du Christ dans les âmes. Voilà, je vous remercie beaucoup, Stéphanie de Boulin. Je rappelle le titre de votre livre, La meilleure part, être femme selon le cœur de Dieu aux éditions Teki. Je vous remercie aussi, Camille de Certaine. Vous nous avez donné toutes les deux les clés pour comprendre la vocation de la femme. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci à toutes deux.
Merci à vous.
Merci Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.